Dans la Torah, le etrog que l'on prend à Sukkot avec les arba minim s'appelle pri etz hadar. Pri etz, le fruit de l'arbre, hadar, qui est beau. Hadar, ça veut dire bien fait, beau. Pri etz hadar, Elou Israël. Pri etz hadar, le etrog, c'est le peuple juif. Ma etrog ze, de même que ce etrog. Yesh bo tam ve yesh bo reach. Le etrog a un goût et il a une odeur. Car Israël, de même le peuple juif, yesh baem, il y a parmi eux bnei adam, des hommes, chez yesh baem Torah, qui possède la Torah, ve yesh baem maasim tovim, l'abréviation c'est Maasim Tovim, et qui ont à leur actif de bonnes actions. Kapot Tamarim, des feuilles de palmier, c'est le loulav. Elou Israël, ça aussi c'est le peuple juif. Ma Tamra Hazou, de même que cette date. Yesh Batam, le palmier datier, où pousse la date. Yesh Batam, ve en boreach. La date a un goût, mais elle n'a pas d'odeur. Car, Hem Israël, dans le peuple juif, Yesh Baem, Torah, il y a des gens qui possèdent la Torah, Ve'en Baem Ma'asim Tovim, mais qui n'ont pas de bonnes actions à leur actif. Ve'anaf Etz Avot, motamo, anaf, une branche, Etz Avot, d'un bois épais ou recouvert, c'est le Hadas, la branche de Myrte, et le Israël, ça aussi c'est le peuple juif. Ma hadas, de même que le hadas, yesh boreach, il a une odeur, ve en botam, il n'a pas de goût. Car Israël, ainsi le peuple juif, yesh baem, il y en a parmi eux, chez yesh baem maasim tovim, qui ont de bonnes actions, ve en baem Torah, mais qui n'ont pas de Torah. Ve arve nachal, c'est le sol, Elou Israël, ça aussi, c'est le peuple juif. Maharavazu, de même que le sol, en batam, ve en bareach, elle n'a ni odeur, ni goût. Kachem Israël, ça aussi, c'est le peuple juif. Yesh baem, il y a parmi eux, bnei adam, des hommes, chez en baem, l'otora, ve lo maasim tovim, qui ne possède ni la Torah, ni les bonnes actions. Uma kadosh baruch hu selaem. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ces gens-là qui n'ont ni Torah ni bonnes actions? Le Ovdam, les perdre, Yevchar, c'est impossible. Et là, mais voici, Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit, Yukshahu Kulam Aguda Achat, que tous soient liés, soient attachés à Aguda Achat, en une branche, Ve'em Chaprim Elu Al Elu. Et les uns compensent les autres. Ve imasitem kar, et si vous faites ainsi, otasha, à ce moment-là, animit ale. Motamo, c'est Dieu qui parle, animit ale, je m'élève. Haoudirtiv, c'est ce qui est marqué dans le verset. Abone bashamaim maalotav. Motamo, celui qui construit dans le ciel, maalotav, ses degrés. Ve'matayumitale, quand est-ce que Dieu s'élève? Que Shehem asuim aguda echat, lorsqu'ils forment une seule assemblée. Shenemar ve'agadto al eretz yosoda. Le fichach, c'est pourquoi Moshe mazir le Israël. Moshe prévient le peuple et leur dit: ou le kartem lachem, le kartem, vous prendrez lachem pour vous. Donc ici c'est le mot lachem, c'est-à-dire vous tous ensemble, ou le kartem lachem, bayom arishon, le premier jour, la fin du verset, tout le monde la connaît, c'est les noms qu'on vient de citer, priet sadar, kapot marim, arve nachal, anafet savot, les arba minim, les quatre espèces que l'on prend en soukot. Ça c'est le texte de Midrash. Alors on va le reprendre, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme remarque à faire. Brie et Tzadar, Elou Israël. Voilà le peuple juif. Ma etrog, de même que ce etrog, yeshbo tam, ve yeshbo reach. Tam, c'est le goût, reach, c'est l'odeur, le parfum. Car Israël, il en est de même pour le peuple juif. Yesh ba'em bnei Adam, il y a des hommes, chez yesh ba'em Torah, qui possèdent la Torah. Torah, c'est donc le tam, le goût. Veyesh ba'em ma'asim tovim, et qui possèdent ma'asim tovim, ce sont les mitzvot, les actions que l'on fait chaque jour. Donc la première question, elle est simple. Pourquoi avoir choisi le tam, le goût, comme étant la Torah, et avoir choisi l'action comme étant le parfum? On aurait pu dire le contraire, on aurait pu dire que le réach, le parfum, c'est la Torah, et le goût sont les bonnes actions. Pourquoi avoir déterminé que le goût, c'est la Torah, et les bonnes actions, c'est le parfum? On va expliquer ça plus facilement. Lorsque je fais une mitzvah, il est possible que la chose elle-même, elle n'ait aucune importance pour moi. Non seulement aucune importance pour moi, mais je n'en connaîtrai ni la signification et je n'arriverai même pas à déterminer si la chose en elle-même a un sens. On va dire pourquoi. La Gemara demande elle a une question très simple. Vechir patlola kadosh baruch hu sheishrotu mina oref u mina tzavar. La Gemara demande, mais est-ce que Akadosh Baruch Hu, ça peut lui faire quelque chose qu'on fasse la shrita à partir de la nuque ou à partir du cou? Est-ce que c'est vraiment important? On va poser la question d'une façon un peu différente. Est-ce que la mitzvah en elle-même, elle est faite pour que j'en retire quelque chose? Est-ce que j'en retire, c'est ça son sens? Ou alors la mitzvah en elle-même, elle a un sens particulier? On me dit de faire la shrita. On sait que tout le monde, comment est-ce qu'on fait la shrita? On prend un couteau et on doit faire la shrita par le dessous de la bête, par la gorge et non pas par le cou. Si je la fais par au-dessus, ce n'est pas valable. L'animal s'appelle nevela, c'est un cadavre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut manger. Demande à Gemara Vichir, Patlo Lakadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça pourrait lui faire que l'on fasse la shrita d'un côté ou de l'autre? Et la Gemara répond que les mitzvot n'ont été donnés que le tsar et fait abriot, c'est-à-dire fais ce qu'on t'a demandé. On va dire même un peu plus. Il est possible qu'on aurait pu bâtir un monde différent. Au lieu d'avoir 5 doigts, on en aurait 6. Au lieu d'avoir 2 pieds, on en aurait 3. Est-ce que ça aurait changé fondamentalement les choses? Ou nous, ce que nous pouvons percevoir des mitzvot, ça n'est que l'écho que ça peut éveiller en nous. Le tsaref et abriot, ça veut dire que la raison de la mitzvah, elle n'a rien à voir avec son impact lors de l'observance. Je fais une mitzvah, c'est une chose qui a une résonance dans ce monde-ci, dans tous les mondes qui existent et qui vivent par rapport au nôtre. Ce qu'on appelle les olamot. Ça veut dire que l'influence d'une mitzvah, elle n'a pas de rapport avec ce qu'on a fait d'une façon matérielle. Il n'en existe que l'odeur. On va dire même plus. Il est possible que la kavana, ça veut dire toute la force que je mets, moi, dans l'accomplissement de la mitzvah, en fin de compte, ce soit ça le but de la mitzvah, et pas la technique de la mitzvah. On peut donner 10 francs à un pauvre avec tout son cœur, et on peut en donner 50 en le laissant tomber par terre pour qu'il le ramasse. Ça veut dire que le technique de la mitzvah et l'impact de la mitzvah sont deux choses différentes. La raison est très simple. C'est que la technique de la mitzvah, c'est quelque chose qui a été créé avec le monde. Ça n'a pas été créé pour soi, ça a été créé pour un impact. Le monde tel que nous le voyons, c'est quelque chose qui doit avoir une résonance pour nous. Maintenant, on aurait pu créer les arbres à l'envers et les roches qui soient d'une autre façon. Pour nous, ça n'aurait pas changé puisqu'on aurait été adapté à ce système-là aussi. Donc on doit penser que la mitzvah elle-même, la résonance qu'elle a, elle n'a peut-être pas de rapport avec la technique. On va donner l'exemple très simple de l'oulav. Le loulav, quelle est la signification que nous connaissons du loulav? Qui c'est qui connaît une signification? Qu'est-ce qu'on prend le loulav? Je vais vous dire ce qu'il y a marqué dans le Midrash. Le Midrash, il dit ceci. Tout le monde connaît le verset dans les Télim. Aziranenu kol atzeayar milifne Hashem ki va lishpot et haaretz. Au moment où Dieu juge l'humanité à Yom Kippour, à Rosh Hashanah, Aziranenu kol atzeayar. À ce moment-là, se réjouissent kol atzeayar tous les arbres de la forêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde lui-même, c'est un ustensile qui appartient à l'homme. Et lorsque cet ustensile peut être utilisé pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il atteint son but. C'est pour ça que le verset dit, « Aziranano, ne crois pas que lorsque toi tu es jugé, et lorsque toi tu sors, Bedin, lorsque tu sors après le jugement et qu'on te laisse encore une année à vivre, ne crois pas qu'il n'y a que toi qui en bénéficie. « Aziranano kolatseaya » Ça veut dire que la bria, la nature entière se réjouit. Elle se réjouit parce qu'elle a la possibilité d'être utilisée à la fin qui lui a été donnée par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, dit le Midrash, qu'au sortir de Yom Kippour, de même que quelqu'un, lorsqu'il sort du tribunal, il va brandir un glaive, il va brandir son arme pour montrer qu'il est sorti gagnant, de même, dans ce combat-là, on prend le loulav, le etrog, et l'on montre que l'on sort gagnant, pas seulement nous, mais toute la nature. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Gemara, il est écrit dans le Midrash, que lorsque l'on prie avec le loulav, on doit prier pour l'eau. L'eau qui donne à la nature la possibilité d'exister. C'est pour ça que l'on dit que Bechag, à Sukkot, Nidonim, à la Maïm, on l'a vu la semaine dernière, il y a 15 jours, on est jugé sur l'eau. L'eau, ça veut dire la possibilité de vie matérielle dans ce monde. Nidonim, à la Maïm. C'est-à-dire que lorsque moi je prends le loulav et l'étrog, la signification la plus claire que nous ont indiqué les Chachamim, c'est que je suis en train, moi, de demander à Akadosh Baruch Hu de laisser la nature me donner les fruits qu'elle peut me fournir. Grâce à l'eau, puisque c'est l'élément primaire, c'est l'élément principal. Et j'associe la nature à cette prière-là. Aziranano Atseria. Ça veut dire que la prière avec le loulav et l'étrog a une force de faire que la nature elle-même, elle puisse être associée à l'œuvre dans l'œuvre de l'homme. Ça, c'est la kavana que l'on doit avoir au moment où on prend le loulav et l'étrog. Maintenant, pourquoi loulav? Pourquoi l'étrog? Là vient le Midrash ici, il nous dit voilà pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va dire les choses clairement, lorsque je prends mon loulav et mon étrog, je fais tomber la pluie. On ne voit pas de relation directe, ni technique, ni physique, entre le fait de remuer un loulav et le fait que la pluie tombe. C'est pour ça que la mitzvah, elle a une odeur. Mais elle n'a pas de goût. Parce que le goût de la mitzvah, je ne l'ai pas, je n'ai que son odeur. On va dire encore plus. Toute interprétation, tout ce que j'arriverai à comprendre de la mitzvah, ne me fera jamais comprendre le système. Si le bon Dieu lui nous donnait le loulav, il nous avait dit, bon, vous prenez une rose. On aurait essayé de comprendre, on aurait compris pourquoi la rose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous étudions un monde fini, que nous ne comprenons pas, et nous essayons de savoir quel est le parfum qui peut nous amener. Mais la signification des choses, elle nous échappe totalement parce que nous-mêmes, nous faisons partie du système. On ne peut pas demander à celui qui fait partie de la bria de la création d'être juge et partie dans la création. Il ne peut en avoir qu'une odeur, qu'un parfum. C'est pour ça qu'on vient, on me dit, voilà, il y a deux sortes de juifs. Celui qui pratique les ma'asim tovim, ça veut dire qu'il a goûté un parfum. Il a produit même un parfum. Est-ce que c'est seulement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ou même vis-à-vis des autres? On peut discuter de chaque mitzvah et mitzvah. Mais il a produit quelque chose. Ce parfum n'a rien à voir avec la technique même de la mitzvah qui pour nous est totalement incompréhensible. C'est pour ça que les Chachamim disent toujours que le ta'am des mitzvot, le ta'am, normalement on traduit la raison des mitzvot, maintenant on va le traduire le goût des mitzvot, il est incompréhensible pour l'homme. La seule chose que l'homme peut avoir de la mitzvah, c'est son parfum. Parfum, ça veut dire l'écho que la mitzvah a provoqué dans le monde et qu'elle provoque chez moi. Lorsque moi je fais une mitzvah, j'influence le monde entier, j'influence tout ce qui se passe dans la bria, dans la nature, parce que j'ai amené un nouvel élément. Ça, c'est le parfum de la mitzvah. Mais le sens profond de la mitzvah, la raison pour laquelle Dieu a décidé que la mitzvah devait avoir lieu et devait être faite comme ceci ou comme ça, Donc on va dire le tam de la mitzvah, le goût de la mitzvah, il m'échappe totalement. Moi, je n'en ai que le parfum. Alors que dans la Torah, c'est le contraire. De la Torah, je n'ai pas de parfum, je n'ai que le goût. Ça veut dire que la mitzvah de la Torah n'a aucun rapport avec ce que je peux comprendre de la Torah. Vous savez qu'il est écrit dans la Gemara de Brachot. Igra de Shmateta Svara. Le salaire, le mérite de la mitzvah de Talmud Torah, c'est Shmateta, ce qu'on comprend. Si quelqu'un prend une Gemara et qu'il la lit, il a un grand mérite. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait de bêtises pendant ce même temps. Mais ce n'est pas ça le Limud HaTorah. Le Limud HaTorah, c'est de comprendre. Igra de Shmateta Svara. Tout ce qu'un homme retire de l'étude de la Torah, c'est le sens des choses. C'est le contraire de la mitzvah. La mitzvah elle-même, elle m'apporte un parfum. La Torah, elle doit me donner le goût, le sens, la signification des choses. Si je n'en retire aucune signification, c'est que je n'ai pas compris ce que la Torah veut me dire. Alors que la mitzvah, je n'essaie pas de la comprendre, j'essaie de l'assimiler et de lui donner un sens. Ça, c'est la différence. C'est pour ça que la Torah est déterminée comme le goût des choses, le sens des choses, alors que la mitzvah est déterminée comme le parfum des choses, ce qui émane de l'ordre qui m'a été donné par Akadosh Baruch Hu et qui m'échappe totalement. Alors que la Torah ne m'échappe pas du tout, parce que la Torah elle m'a été donnée, et elle a été donnée pour que je l'interprète, pour que je la comprenne. Si je ne la comprends pas, elle n'a aucun intérêt. C'est pour ça que l'une s'appelle le goût et l'autre rire. Vous savez qu'en hébreu, le mot tam, ce sont les lettres du mot me'at. Me'at, ça veut dire peu. Ça veut dire que quoi que goûte l'homme du goût de la Torah, il n'en goûtera qu'un tout petit peu. Le tam dans ce monde-ci, c'est un tout petit peu ce qui existe. Mais c'est le petit peu qui m'a été révélé. Le reste, c'est pour le monde futur. Mais ça, c'est le tam des choses. Le tam des choses, ça veut dire le peu des choses que j'en retire. Lorsque je mange un fruit, j'en retire un peu, un tam, un goût. Donc on comprend maintenant pourquoi la Midrash vient et dit, ceux qui possèdent, et la Torah possède le goût, et les Maasim Tovim possèdent le parfum aussi. Alors on va continuer. Kapot de Marim, Elou Israël, la branche de palmier, Ma Tamra Azot, cette date, Yeshvotam, V'en Boreach. La date a un goût, mais n'a aucune odeur. Karem Israël, Yesh Baem Torah, il existe dans le peuple juif des gens qui possèdent la Torah, le En Baem Asim Tovim. On peut posséder la Torah et ne pas l'appliquer. C'est-à-dire qu'on peut étudier, on peut comprendre, on peut goûter les choses, mais elles ne vont donner aucun parfum. Ça veut dire qu'elles ne vont éveiller aucun écho, si ce n'est intellectuel. Ça, c'est le goût des choses. On peut arriver à faire ça. C'est-à-dire qu'il existe des gens dans le peuple juif qui ont le goût de l'étude, mais qui n'ont pas la force ou qui n'ont pas la volonté de la mettre en pratique. Cette sorte de gens, c'est le palmier. On va voir maintenant le prochain. Ve'anaf et tzavot, le hadas, le myrte, Elou Israël, ma'adas yesh boreach. Lui, c'est le contraire. Il a un parfum, ve'en botam, il n'a pas de goût. Car Israël, yesh ba'em shesh ba'em ma'asim tovim ben ba'em Torah. Il y a des gens, au contraire, ils ont des ma'asim tovim. Ça veut dire qu'ils font de bonnes actions. Ils pratiquent les mitzvot. Mais ils sont imperméables à l'étude de la Torah. Ou parce qu'ils n'en ont pas envie, ou parce qu'ils n'ont pas la possibilité intellectuelle, ou parce qu'ils n'ont pas l'investissement qui est nécessaire à ça. Il existe dans le peuple juif des gens dont on ne peut pas dire qu'ils ne pratiquent pas les mitzvot. Et pourtant, ils ne sont pas intéressés à l'étude de la Torah. Ceux-là sont comme le myrte. Ve arve nachal, ça c'est le sol, et le Israël, ça c'est le peuple juif. Ma rava zu en batam ven barer kachem Israël. Yesh baem bne adam, il y a des hommes, she en baem lo Torah ve lo ma'asim tovim. Ils n'ont ni le goût, ni le parfum. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien du fait que la Torah a été donnée, le fait qu'ils s'appellent juifs. Alors là, il y a une phrase curieuse dans le Midrash. Uma akadosh baruch hu oselahem. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu leur fait? Il faut croire qu'à ces gens, on doit leur faire quelque chose et aux autres, on ne doit pas leur faire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas posé la question? Celui qui a des mitzvot, il n'a pas de Torah. Celui qui a de Torah, il n'a pas de mitzvot. Pourquoi il n'y a pas marqué Ma Akadosh Baruch Hu Selahem? Il y a marqué seulement à propos de celui qui n'a ni le goût, ni le parfum, Ma Akadosh Baruch Hu Selahem. Le hof d'âme de les perdre, Yefchar. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont rien à leur crédit. on ne justifie pas à sa création. Si on n'a ni le goût, ni l'odeur, ni le parfum, on ne justifie pas la raison pour laquelle on a été créé. Ou Torah, ou Masim Tovim, ou les deux. Mais si on n'a aucun des deux, on ne justifie pas. Ma Akadosh Baruch Hu Selem, qu'est-ce qu'on peut faire d'eux? L'œuvre d'âme de les perdre, Yevcha. Pourquoi Yevcha? Pourquoi Yevcha? Pourquoi ce n'est pas possible? C'est ce qu'on va faire. On va, une fois, on ne va pas être trop intelligent, on va regarder ce que disent les commentaires. Vous avez le commentaire Etz Yosef. Oui, c'est le commentaire classique du Midrash. Vous allez regarder à la 16e ligne, après le début dans la deuxième colonne. Ça y est, c'est compté. She'en ba'em lo Torah v'lo ma'asim tovim. Alors lui, il explique. Oui, ce qu'il explique, c'est en italique. Rak seulement. She'en porshim midarkei atzibum. En porshim. Il ne s'éloigne pas, midarkei atzibum, du chemin que prend l'ensemble du peuple juif. Ou mechanim et atzmam. Et il se considère comme, il se nomme Beshem Israël, par le nom de juif. C'est-à-dire, on parle de gens qui n'ont de juif que le nom, mais ils y tiennent. Vegam Yeshlaem Sachar, ceux-là aussi ont un mérite. Ou que Moshe Katouv, comme il est écrit, Kola Kofer Bavodazara, que Mode Bechola Torakula. Tout celui qui ne fait que nier l'idolâtrie, c'est comme s'il était d'accord avec la Torah entière. Velachem kulam, achudim ze baze. C'est en cela que tous sont unis. On est unis au peuple juif qu'à partir du moment où on a un minimum. Ce minimum, c'est s'appeler Israël. On n'a pas d'idéologie étrangère au peuple juif. On s'appelle Israël. On n'a pas de mitzvot, on n'a pas de masim tovim. Mais on se définit par une seule définition, juif. Avodazara, ça veut dire qu'on a d'autres définitions. On a d'autres critères. Et même si on n'a pas la force de faire la mitzvah, ou on n'a pas l'envie d'étudier la Torah, on ne se définit pas autrement que Beshem Israël. Voilà comment il explique. Il dit ça, c'est uni. Le Avdam Yevchar, on ne peut pas les enlever du reste du peuple parce qu'ils font partie. Ça veut dire que lorsque je me considère comme juif, même si je ne sais pas et je ne pratique pas, je fais partie du peuple juif. Ça veut dire que je fais partie d'un certain destin. Et ce destin-là, le Obdam Yevcha. Maintenant, pourquoi a-t-il été déterminé un destin? Est-ce qu'on peut dire c'est à cause de l'avenir, parce qu'on peut toujours faire tchouva, ou c'est à cause du passé? On peut dire tout ce qu'on veut. Mais ici, on voit qu'on peut faire partie d'un destin qui est le destin du peuple juif, par le simple fait qu'on a une définition. On est uni par cela au peuple juif. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire s'unir encore. On va essayer de voir ça. D'accord? Donc, on va garder ce que dit ce commentateur et on va essayer d'aller plus loin. Et la Amara Kadosh Baruch Hu, Yuksheru Kulam Aguda Achat. Que tout le monde soit attaché. Aguda, c'est un faisceau. C'est. Comment? Un groupe. Tout le monde va être attaché en un seul groupe. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vehein me chaprim ze al ze. Kapara, vous savez ce que c'est la kapara? Kapara, ça veut dire que. Comment on traduit kapara? Racha, absolution. Mais on va essayer de voir de quoi est composé ce mot. Le chaper. Le chaper, on dit pardonner, racheter, absoudre. Le mot kapara, kaf, pei, reish, kaper, ce sont les mêmes lettres que le mot kofer. Lire fort, ça veut dire renier. Celui qui n'est pas renié, il est accepté. Kapara, ça veut dire accepter. On accepte la personne telle qu'elle est maintenant. Ça, c'est la notion de kapara yom kippo. Ki va yom azeh yechaper alechem. Vous ne serez pas rejeté, mais accepté. Ça qu'en hébreu, le mot kapara et le mot kfira, qui veut dire renier, ce sont les mêmes lettres. Donc le chaper, quoi qu'on le traduisent et quoi qu'on justifie comme sens, ça veut dire être accepté. Em chaprim ze al ze. Les uns font accepter les autres. Ça veut dire qu'il y a un destin commun. Ça, c'est la notion de le chaper. On fait partie d'une cause commune. On va essayer de continuer. Veim asitem kar. Et si vous en faites ainsi, au tasha, à ce moment-là, animitale. Akadosh Baruch Hu dit, moi je m'élève. Comme il y a deux versets dans Amos, abonne vachama et malotav. Ça veut dire que Dieu se construit, on va dire même plus se justifie, de l'existence du peuple juif. C'est un but de la création. À partir du moment où ce but est atteint, dans l'unité, il y a une justification à la création, ce qu'on appelle la aliya. Aliya, ça veut dire justifier quelque chose. Le hit alot. Vous savez que dans la vie, ou on monte ou on descend. Mais il n'existe personne qui reste. Ça n'existe pas. Alors chez Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Ou le but est atteint, ou il n'est pas atteint. S'il n'est pas atteint, c'est négatif. Si le but est atteint, c'est positif. Moi, je peux faire que Akadosh Baruch Hu soit mitalé. Mitalé, ça veut dire qu'il grandisse. Ve matayu mitalé, kshemasu imagudavrat. Seulement lorsque le peuple juif est unifié. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a le destin commun. Ça veut dire que Israël existe. On va essayer de continuer. Ve matayu mitalé, kshemasu imagudavrat, shenema, vagudato aleretz yesoda. Le fichach Moshe mazir l'Israël. Ça que Moshe dit à Israël, ou le kartem lachem pour vous. Vous, ça veut dire tous ensemble. Alors là, il y a deux questions qui viennent à l'esprit, elles sont très simples. D'abord, en quoi l'unité fait le peuple ? On peut très bien appartenir à un peuple et ne pas être uni. En France, il y a la gauche et la droite. On ne peut pas dire qu'il y a de l'unité. Et quand même, c'est le peuple français. Quelle est cette notion d'unité ? En plus, la Torah a été donnée à l'homme pour être interprétée. Qui dit interprétation, dit appel à l'individualité. Pourquoi est-ce que je serai obligé d'accepter ce que dit l'autre ? Et est-ce que l'unité, c'est justement d'accepter ce que dit l'autre ? Ou c'est pas ça l'unité ? En quoi constitue l'unité du peuple juif ? Si c'est le fait de ne pas se bagarrer, bon, on ne se bagarre pas. Si c'est le fait de ne pas avoir les mêmes idées, est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'unité ? Et quel est le rapport avec ce destin dont on fait partie qui ne peut exister que dans l'unité ? Alors, je vous écoute. Oui, mais eux, ils ne suffisent pas. Il faut que les autres soient rapprimes pour eux. C'est-à-dire, de fait que les autres justifient un destin, eux peuvent faire partie de ce destin-là. Mais eux ne le justifient pas. Ça, il faut être clair. C'est-à-dire que l'unité, ça justifie rien. On ne voit pas tellement... On va dire, voilà, le fait qu'il y ait un but commun, il y ait une raison d'être, à partir du moment où quelqu'un se veut et se réclame du peuple juif, il fait partie de cette raison d'être puisque les autres l'ont pour lui. Donc en ça, l'unité justifierait. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu est mit allé juste dans l'unité ? Est-ce que l'individualité ne fait pas qu'Kadosh Baruch Hu soit mit allé aussi ? Ah, ça c'est un problème aussi. Est-ce qu'on peut monter tout seul ? Mais il y a peut-être une personne qui peut faire monter. C'est-à-dire, même si on se bat ensemble et on ne se bat pas pour soi, il y a quand même l'unité. C'est vous qui l'avez dit. Alors on va dire, ben, le fait qu'il s'appelle juif, c'est déjà l'unité. Il y a encore autre chose. Ah non, il y a marqué « Imatem mekusharim », si vous êtes associé, vous êtes attaché. Le fait que tout le monde s'appelle juif, ça ne fait pas l'unité, ça c'est sûr. Parce que si on dit ça, il n'y a pas besoin de s'attacher. Il y a un seul destin du peuple juif. L'unité est... c'est d'avoir la conscience que le destin est le même. Ne fait pas partie de cette unité celui qui n'est pas d'accord avec ce destin-là, qui reste à définir. Me koucharim, ça veut dire de comprendre que ce qui va m'arriver à moi, ça va t'arriver à toi. Ça veut dire que l'unité du peuple juif, elle n'est pas dans l'unité de l'idée. Elle est, on va dire, dans l'accord d'un même destin. Et là, ça cause un grand problème. Parce que si c'est ça l'unité, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec le destin, on ne fait pas partie de l'unité. Qu'est-ce que vous appelez le destin? C'est lequel? Alors on va demander, bien, puisqu'il y a un destin, on va demander lequel? Hein? Tout le monde, un devenir collectif. Alors l'un il pense que c'est ça, l'autre il pense que c'est ça. Est-ce que c'est tourner autour de la tour Eiffel? C'est quoi le destin collectif du peuple juif? C'est quoi? C'est accaparer le sentier. Hein? C'est quoi le destin du peuple juif? Le Mashiach, alors le Mashiach c'est un moyen, il sert à quoi? Olam Haba. Donc on va dire très simple. Le destin du peuple juif, c'est le destin tel qu'il est défini dans la Torah. Ça veut dire qu'il y a un moment où la révélation, qui est un fil conducteur pour le peuple juif, va lui faire arriver son but, c'est-à-dire que la révélation, elle est réalisée dans le monde. On va dire très simple. On me dit que le Shabbat, je n'ai pas le droit de détacher une date du palmier. Moi, je ne le vois pas dans la réalité. Il m'est révélé que ça ne peut se faire dans la réalité. Mais je ne le vois pas, moi. C'est le goût de la mitzvah. Je ne l'ai pas. Il y a un moment où le goût et le parfum doivent être confondus. C'est pour ça que le Midrash dit qu'à l'époque du Mashiach ou du Olam Haba, si quelqu'un voudrait arracher une date d'un palmier, alors la date va lui dire Shabbat Hayom Lachem. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Vous comprenez? Ça, la réalisation des choses. Qui dit révélation, dit qu'il y a un but à la révélation. C'est-à-dire, on te révèle que les choses sont telles et telles. Mais moi, je le vois. Le voir, c'est autre chose, c'est une autre dimension. C'est là où le réar, le parfum et le goût se confondent. Ça, c'est le seul destin qui existe pour le peuple juif. Les moyens pour y arriver, ils peuvent être différents à partir du moment où ils vont dans le même sens. C'est pour ça qu'on dit « Eilou mechaprim ». Ça veut dire, tant qu'il y aura des gens qui iront dans ce sens-là, il y aura des gens qui auront les deux, et le goût et l'odeur. Il y a des gens qui auront le parfum, mais qui n'auront pas le goût, d'autres qui auront le goût, mais pas le parfum. Ceux qui n'auront ni le goût ni le parfum, ils font partie de quelque chose qui existe, d'un destin collectif. À partir du moment où les uns n'existeront plus, les autres ne veulent plus rien dire. Je ne peux pas m'accrocher au peuple juif si je n'ai pas une idée claire de qu'est-ce que ça veut dire le peuple juif. C'est ce que nous appelons Bayom Ahou, ce jour-là, Yi Hashem, le nom de Dieu sera Echad, uni, ou Shmo Echad, et son nom sera uni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on verra l'unité de l'odeur et du goût. La mitzvah et l'étude de la mitzvah, ce sont une réalité. Alors que pour nous, ce sont deux choses totalement étrangères. J'ai l'étude du sens des choses que j'essaie de pénétrer, on a dit Ta'am, c'est me hâte un petit peu, et j'ai le fait de les faire. Mais moi, je ne vois pas la relation entre les deux. Je ne vois pas en quoi le fait d'arracher une date le Shabbat, ça change quelque chose dans toute la bria. Ça enlève quelque chose à l'ordre du monde. Je peux goûter un petit peu par l'étude de ce que ça veut dire, mais je ne vois pas la réalité. Le destin du peuple juif, c'est de vivre et d'amener au monde cette réalité-là. Ça, c'est le destin du peuple juif. Ça veut dire que la révélation, puisque le peuple juif est devenu peuple par le don de la Torah, que cette révélation, elle devienne réalité. Elle ne soit plus une révélation. Ce n'est pas qu'on me révèle ce qui existe, c'est qu'on me montre ce qui existe. Ça, c'est ce qu'on appelle Echad. On peut me montrer ce qui existe, on peut me révéler que ça existe. Ça fait appel à énormément de notions, parce que ça veut dire ceci. On va parler carrément. Ça veut dire que si le Rabbi de Lubavitch et le Rav Shach ont une marloquette, ont une discussion qui peut séparer en deux le peuple juif, ça reste l'unité du peuple juif. Je vais vous dire pourquoi. Il y a deux associés qui mènent une affaire dans le même but. Ça peut se passer dans la tranquillité, dans le calme. Ça peut se passer dans les cris. Ça peut se passer dans la dispute. Parce que les deux vont essayer d'atteindre le même but par des moyens différents. On ne doit pas écouter et penser que la marloquette, la discussion, même la dispute dans le peuple juif, et un rapport quelconque avec l'unité du peuple juif. Ça n'a aucun rapport et pas le moindre. C'est-à-dire ça, il faut bien être clair. Parce que lorsqu'on parle d'unicité, on dit toujours, il faut penser la même chose. C'est faux. On peut penser différemment. On peut même penser que l'autre est tort. Mais on sait que l'autre, ce qu'il met en œuvre, c'est la même chose que moi. Maintenant qu'il est tort, je dois le combattre. Je ne peux pas dire au nom de l'unité du peuple juif et le laisser faire. Je suis obligé de le combattre. Parce que si je pense qu'on est associé dans une affaire et que l'autre qui poursuit le même but que moi, c'est-à-dire de rentabiliser l'affaire, est en train de la perdre, je suis obligé de le combattre par tous les moyens qui sont à ma disposition. Si je ne le fais pas, ça veut dire que je ne suis pas attelé à ce but. Deux associés qui sont en désaccord et qui restent en désaccord, ce ne sont pas des associés. Parce qu'on ne peut pas supporter lorsque quelqu'un d'autre met en péril ce que je suis en train de construire. Donc je suis obligé de le combattre. Ce combat-là, il s'appelle l'unité du peuple juif. Là, il faut bien être clair. Ça veut dire qu'on ne doit pas penser qu'au nom d'une quelconque idéologie qui est l'idéologie de l'unité, on doit faire cesser les entreprises individuelles ou même les entreprises plus ou moins collectives qui sont dans le même but les unes des autres au nom d'une quelconque unité. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça l'unité. Attaché, ça veut dire que tout le monde poursuit le même but. Ça, c'est attaché. Si on poursuit des buts différents, on ne fait pas partie du même destin. C'est vrai. Mais à partir du moment où on poursuit le même but, on n'a pas ce problème-là. Dans ces cas-là, au contraire, non seulement on a le droit de laisser faire, mais il faut prendre parti. Parce que celui qui ne prend pas parti, c'est qu'il n'a pas de but défini. Parce que si tu as un but défini, tu dois savoir quel est le meilleur moyen pour y atteindre. Ou alors il y a les sans-opinion. Vous savez que ça existe des juifs sans opinion. On peut être sans opinion, ça on a le droit d'être. On peut tirer à pile ou face. Ça c'est déjà un autre problème. Et je vous dis pourquoi. Parce que le mot en hébreu, kosher, kosher ça veut dire être lié, attaché. Si vous regardez les lettres, c'est les mêmes lettres que le mot sheker. Sheker, c'est quelque chose qui ne tient pas. Lorsque tous les matins, mon associé, qui est en train de me faire passer la ligne rouge à la banque, je lui demande comment ça va, quoi de neuf, tout va bien, je pratique le kosher, l'association. Mais en vérité, je pratique le shaker, le mensonge, parce que tout ne va pas bien. Et une des meilleures façons de s'associer, c'est de pratiquer le mensonge. Comprenez, c'est comme ça. C'est difficile d'être associé et de ne pas pratiquer le mensonge. Kesher, ça veut dire être associé, mais de ne pas pratiquer le mensonge. Pas shaker, mais kesher. Ça, c'est une notion qui n'existe que dans le peuple juif. Parce que la discussion en elle-même, elle est valable. Le combat en elle-même, il a une valeur. Si je combats quelqu'un dont je pense que les idées sont fausses, en soi, c'est du kesher, c'est pas du shaker. Mais si je, au nom de la paix et au nom, on va dire, d'une tranquillité, je viens et je lui dis tout va bien, je pense comme toi, ou nous ne pensons pas tous les deux, alors à ce moment-là, c'est plus du kesher, c'est du shaker. On peut être lié par le Emet et on peut être lié par le Sheker. L'un c'est de l'extérieur, l'autre c'est de l'intérieur. Mais on va quand même voir ce que dit le commentateur. Regardez ce qu'il dit. Yuksharu kula maguda achat. Yuksharu ça veut dire tout le monde sera attaché à Guda achat dans un seul groupe. Ve afalgav, l'abréviation c'est afalgav, et bien que. De etrog, que le etrog einone gad. Vous savez que le etrog, il n'est pas lié avec les trois autres. Dans les mains, on le prend et on l'associe aux trois autres. Mais le loulav, le hadas et la harava doivent être liés ensemble alors que l'étrog n'est pas lié. Donc il y a une bonne question. Il dit pourquoi est-ce que l'étrog n'est pas lié? L'étrog n'est pas associé intimement. Il est associé. Le Etz Yosef, la 19e ligne. On a dit qu'on continuait. Va'afalgav d'etrog et non egad, bien que le etrog, on ne le lit pas avec les autres. Imshara minim, avec les autres sortes. Le kulalma, d'après toutes les opinions, que de yalfinan, comme on le déduit, betorat kohanim, dans le midrash alacha, sur vaikra, et ou besuka, dans la gemara suka. Mikol makom. Mikeivan de olim kolaminim yachad. Du fait que toutes les sortes sont associées. Aveleke agad, c'est comme s'il était lié. Vechem benimshal. Et maintenant tu vas comprendre inversement. Eina talmid chacham adome le etrog. Le talmid chacham, le savant, qui ressemble au etrog. Ein raoui lit kasher tamid baguda achat imaem. Il n'est pas nécessaire et il n'est pas bon pour lui qu'il soit toujours attaché avec les autres. Vedayo, et il lui suffit, sheid karev aleem, qu'il y soit rapproché, mais non attaché. Il pose une question simple. Il dit, ben, il faut être tous attachés, alors on va attacher l'étrog avec. Il dit non, l'étrog, il doit être pris en même temps. Dans les mains, il doit être pris, mais il ne peut pas être attaché. Il dit, vanimshal, et tu comprendras ce que veut dire ce midrash, c'est que le Talmid Racham, dayo sheid karev elehem, on n'est pas obligé toujours d'être associé, il suffit de se rapprocher. Et là, il faut savoir pourquoi. Lit karev, karov, vous savez que karov, quel est le mot qui est le même que karov? Korban, mais korban aussi veut dire approcher. Krav, krav c'est le combat. On est obligé de mener en combat. Quelquefois, on ne peut pas être karov. Ou en tout cas, il suffit d'être karov par le combat. Vous savez que le combat, c'est aussi une forme de courva, de rapprochement, comme on a dit. Si je combats quelqu'un, c'est que je pense que j'ai à faire quelque chose avec lui. Si je ne le combats pas, c'est que je m'associe au sheker, au mensonge. Il dit, Talmid Racham Dayoshit Karev. Il n'a pas besoin d'être lié, Kesher. Il n'a pas besoin. On va dire pourquoi, on va dire c'est très simple. Arava, on a dit, celui qui possède ni la Torah, ni les Maasim Tovim, il fait partie du destin. Seulement, il y a quelqu'un qui le mène, ce destin-là, parce qu'on fait partie de quelque chose. Celui qui a la Torah et pas les Maasim, celui qui a les Maasim et pas la Torah, lui aussi, il lui manque quelque chose. Celui qui a et les Maasim et la Torah, c'est celui-ci qui mène le destin. Alors celui-ci, Karov, il doit être proche. Seulement, il doit pouvoir être Karav, il doit pouvoir combattre aussi. Donc pour ça, il ne faut pas être plus que proche, il ne faut pas être lié. Et ça, c'est une notion très importante. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes habitués à une notion d'égalité. La notion d'égalité, c'est une notion qui fait appel à deux concepts. D'abord, le concept de l'humilité. Parce que, en vérité, on sait très bien, lorsque moi je vois l'autre, je sais très bien que je ne suis pas son égal. Pourquoi ? Parce qu'il peut être plus intelligent que moi. Il peut être plus capable que moi. Il y a plein de raisons qui font que je ne suis pas du tout son égal. Ce qui fait qu'on est tous égaux, c'est que lui veut bien dire qu'il est mon égal. Ça, c'est la première notion. Ça veut dire que la notion d'égalité, c'est une notion qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Moi, je n'ai pas le droit de me proclamer égal à l'autre. C'est pas vrai. On peut être égal devant la loi, on peut être égal devant la République, mais en valeur absolue, c'est sûr qu'il n'y a pas d'égalité. Et il y a une deuxième notion. C'est que l'égalité, elle fait partie d'un concept, on ne dirait pas qu'il est vicieux, mais qui est pervers. On va vous dire très simplement, on peut être frère, fraternité, on peut être libre, liberté, mais on n'est pas du tout obligé d'être égaux. D'être égaux, des frères, ils ne sont pas égaux. La preuve, il y en a un qui est avant l'autre, fatalement. Il y en a un qui fait ceci, il y en a un qui fait cela. Ils ne sont pas obligés d'être égaux. Qui dit égaux, dit toujours égaux devant quelque chose. Ce quelque chose, il est toujours à déterminer. Égal, on est égal devant quoi? On n'est pas égal ni par la taille, ni par l'aspect, ni par l'intelligence, ni par la richesse, ni par la par rien. Au contraire. La Gemara nous dit que Aroé Uchlou c'est Israël, celui qui voit une multitude de gens du peuple juif, il doit faire une bracha. Quelqu'un qui voit beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de juifs assemblés, doit faire une bracha. Quelle est la bracha? Baruch Chacham Arazim. Chacham Arazim, ça veut dire soit loué Chacham, le sage Arazim du secret. Shekeshem, Sheparzufem, Enam Shavim, Kardeotem, Enam Shavot. de même qu'aucun des visages ne se ressemble, de même aucune de leurs opinions ne se ressemble. Ça veut dire que les Rachamim sont venus nous dire, lorsque tu vois beaucoup de monde, te vient à l'idée immédiatement l'idée d'égalité. Sache que c'est faux. Chacham arazim. Il faut voir ce qu'il y a derrière, ce qui est secret. Raz, c'est le secret. Vous savez que raz en hébreu, c'est dire ce qui est caché. C'est le même mot que zar. Zar, ça veut dire celui qui est étranger, que tu ne vois pas. Essaie de voir derrière. Derrière, tu vas voir que les choses ne ressemblent pas à ce qu'elles ont l'air de l'extérieur. La multitude d'Israël ne te laisse pas attraper. La communauté de destin, elle ne donne pas l'égalité. Baruch Racha Marazim. Tu es obligé de savoir que chacun a une individualité. Et celui qui veut la nier, il vient au nom d'une égalité. Et cette égalité, elle est perverse. Parce que égalité devant quoi? On va dire égalité devant les chances, c'est faux. Tout le monde est d'accord. L'égalité, c'est une lutte. Ça n'est pas un fait. La fraternité, ça peut être un fait. La liberté, ça peut être un fait. L'égalité, c'est une lutte. On doit lutter pour que tout le monde puisse être égaux. Mais en fin de compte, les différences, elles existent. Au début de la vie, il n'y a que des différences. Pendant toute la vie, on peut essayer de gommer les différences pour que tout le monde arrive à être égaux. Mais ça, c'est un combat. Celui qui dit égalité, il veut égalité devant un pouvoir ou égalité devant une loi. Et là, il y a une notion perverse à laquelle il faut échapper totalement. On peut me dire... Aime ton prochain comme toi-même. Laisse-le libre, sois libre. Mais sois son égal, je suis obligé de poser une question. Devant qui? C'est souvent devant quelqu'un qui se passe au-dessus et qui veut me dire que nous tous, nous sommes égaux. Ça peut être la loi, ça peut être la République. Mais qui dit égalité pose une question. Devant quoi? Devant l'intelligence, c'est faux. Devant les possibilités, c'est faux. Devant la richesse, c'est faux. On n'est pas égaux, c'est pas vrai. On peut devenir égaux dans un but commun. C'est peut-être ça qui veut nous dire le Midrash ici. Il y a quelqu'un qui a des mitzvot et des ma'asim tovim. Celui-ci doit savoir qu'il n'est pas l'égal de celui auquel il manque un élément et celui qui n'a pas les éléments. Dayo, il dit, suffit qu'il s'approche. Suffit qu'il s'approche, pourquoi? Parce que cette notion d'égalité qui voudrait être dans ce kécher, dans cette association, il faut la gommer. Il faut savoir que Baruch Racham Arazim, derrière quelqu'un, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose à développer. Parce que vous savez que ceux qui pratiquent le plus libéralement, le plus facilement la notion d'égalité, c'est ceux qui ne cherchent pas à développer les personnes. Moins je cherche à développer un individu, moins je cherche à lui donner la possibilité d'arriver à tout son potentiel, plus je suis égalitaire. C'est facile l'égalité. Parce que ça permet un pouvoir. Mais cette égalité-là, la Torah la refuse. Dayo, il dit, c'est ce qu'il dit le Etz Yosef, le commentateur. Ça suffit. C'est-à-dire, attaché, c'est une notion, et proche, c'est une autre notion. Proche, on peut l'être. C'est pour ça que ce proche, ça peut être par le krav, ça peut être par le combat. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas proche. Mais lié, c'est autre chose. Le kécher, ça, c'est entre les autres, mais celui qui possède, donc celui qui mène, celui qui prend en main le destin du peuple juif, celui-ci, il suffit qu'il soit proche, même si c'est par le combat, mais il n'a pas besoin d'être lié. Cette notion, elle est souvent difficile à accepter, parce que nous avons des notions qui nous sont étrangères dans la tête. Non seulement ça, parce que c'est le Midrash qui définit qui c'est qui mène. Celui qui mène, ce n'est pas le politique. Le politique, ça peut être les bonnes actions, et encore. Ça dépend comment on le fait. Parce que les ma'asim, c'est une chose, les ma'asim tovim, c'est une autre chose. Vous savez qu'il y a des ma'asim. Il y a celui qui agit. Maase Tov, c'est autre chose que le Maase. Le politique, il agit. Maintenant qu'il agit Tov, c'est autre chose. Ça, c'est déjà un autre débat, si la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que celui qui mène dans le peuple juif, c'est celui qui possède et la Torah et les Maasim Tovim. Et ça, chacun peut le faire. Vous savez que le pouvoir, il a été donné. Keter, il y a une couronne qui s'appelle Keter Malchut. La royauté. La royauté, on a déjà perdu toutes nos chances. Puisque c'est la descendance de David Améler. Donc, on ne peut déjà plus concourir. Keter Kouna, la couronne de la prêtrise, les Kohanim. Ceux parmi vous qui ne sont pas Kohanim sont les plus nombreux, ils ont aussi perdu toute leur chance. Mais il y a autre chose, il y a Keter Torah. La couronne de la Torah, dit la Gemara, Torah munachat bekeren zavit kolarotze yavo vitol. La Torah, elle a été posée dans un coin. Tout celui qui veut, il peut la prendre. Elle n'est donnée à personne. Ça, c'est individuel. Personne n'a le droit de me dire que je ne l'ai pas ou que je l'ai. Personne n'a le droit de me dire que je n'ai pas à la prendre ou que j'ai à la prendre. Elle est munachat. Elle a été posée bekeren zavit dans un coin. Kolarotze, tout celui qui veut, yavo vitol. Ça veut dire que mener dans le peuple juif peut n'importe qui. C'est pour ça que la halakha elle est. Que même le mamzer, même celui qui est le fruit d'une union interdite par la Torah, et il est un talmid racham, si c'est quelqu'un qui possède et la Torah et les maasim tovim, il passe devant le Kohen Gadol, le grand prêtre, s'il est à Maharet, si lui-même n'est pas un talmid racham. Parce que le Keter Torah, c'est ça la liberté. Et ça n'est pas égalitaire. Ça n'a pas été donné à tout le monde en même temps. Kol ha-rotze yavo ve'yitol. C'est à moi de le prendre. Personne ne me le donne. Si on me donne quelque chose, je suis égal. Mais si je veux le prendre, il y en a qui veut le prendre vite, l'autre qui veut le prendre lentement. Il y en a qui aime le prendre, il y en a qui n'aimera pas le prendre. Chacun, dans sa liberté, fera fi de l'égalité. Je ne peux pas dire que je vais attendre dans ma course à la Torah que le voisin soit là derrière. Ça ne veut rien dire. Kol ha-rotze, ça dépend de ma volonté. Ce qui est dépendant de ma volonté, c'est le contraire de l'égalité. Ça, c'est ce qu'on appelle le Keter Torah. Les autres, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est une notion politique, une notion de Maasim. La prêtrise, c'est aussi un pouvoir. C'est le pouvoir sur le Beth Amigdash, sur le temple. Ça, ça a été délégué. Ça a été donné. C'est pas la peine, on ne peut pas concourir. Mais la Torah, kol ha-rotze yavo ve'yitol. Ça veut dire que personne ne possède le pouvoir de la Torah. Il n'y a que quelqu'un qui puisse dire « je sais et je pense savoir » et c'est à moi de le critiquer et d'essayer de voir si sa vue me correspond. Personne ne peut venir et me dire « voilà, je possède la vérité, je suis celui-ci, je suis celui-ci. » Parce que ça, ça fait partie de Malchut et ça fait partie de la Kouna. Mais le Keter Torah, kol ha-rotze yavo ve'yitol. Ouais.
Alors, j'ai une question. Très simple. On voit les grands qui ne sont pas d'accord, etc. Nous, on est des tout petits. Parce qu'il y a un commérage, les gens parlent, ça bouge beaucoup, on ne sait plus où on en est. Parce que c'est très fatigant pour tout le monde, la vérité entre...
Je ne sais pas, moi j'entends jamais parler de rien.
Les marques loquettes à un haut niveau et nous à un petit niveau, bon, ça, nous on vient de faire tout bas, on est tout frais encore, et on ne comprend pas ce qui se passe, la vérité.
Ah, je vais vous expliquer très simple. Si on ne comprend pas ce qui se passe, alors ça ne nous atteint pas. Je vous donne un exemple. Si je suis vraiment sûr de ne pas comprendre, le problème c'est qu'on croit qu'on comprend. Si je suis vraiment sûr de ne pas comprendre, quelqu'un est venu m'a expliqué que... Et puis j'ai rien compris. Alors ça ne m'a pas pris la tête, ça ne m'a pas dérangé, le commérage ne m'a pas atteint. Alors si je ne comprends vraiment pas, ça ne me dérange pas. Le problème c'est si je crois comprendre ou si je veux comprendre. Alors là c'est à moi de voir selon ma sensibilité et selon mes connaissances et selon ce que je pense pouvoir juger, de savoir qu'est-ce que je pense être valable, qu'est-ce que je pense ne pas être valable. Kol ha-rotze yavo ve'yitol. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'enseignement. C'est que l'enseignement, on le transmet, mais l'autre en prend ce qu'il veut. Alors si on vient au nom du pouvoir, on est fichu. Mais au nom du pouvoir, Baruch HaShem, Keter Kuna, Keter Malchut, ça n'existe plus dans le peuple juif. Donc le pouvoir s'est exclu. La seule chose qui reste aujourd'hui, c'est le Keter Torah. Keter Torah, personne ne peut me l'imposer. On peut seulement me le suggérer. Ça veut dire que je puis être élève. Celui qui veut être élève de tel ou tel, c'est à lui de choisir. S'il ne sait pas, il n'a pas de problème, puisqu'il ne sait pas. Donc, il n'est pas obligé de juger quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors les commérages, je ne vois pas exactement quel est l'impact de ce commérage. Celui qui veut se renseigner, peut se documenter, peut voir. Chacun peut avoir son idée là-dessus. Mais en tant que rotzi avo v'yitol, parce que l'élève prend du maître ce qu'il veut. Ça, c'est le pouvoir de l'élève sur le maître. Le pouvoir du maître sur l'élève, c'est qu'il a le droit de lui casser les oreilles. Seulement une fois que les oreilles sont cassées, on peut faire un tri. C'est qu'il y a des choses qui rentrent dans une oreille et puis ça sort dans l'autre. Ça, c'est le pouvoir de l'élève sur le maître. Ça, c'est le Keter Torah. Kol ha-rotze yavo ve'yitol. On prend, on ne reçoit pas. Ce que je veux recevoir, je le prends. Ce que je ne veux pas recevoir, je ne le prends pas. Il existe une liberté totale. Celui qui se vend corps et âme, c'est son problème. Il a renoncé à sa liberté, à son rotze yavo ve'yitol. On peut tout ingurgiter. On peut dire voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Tout ce qui est marqué dans tel traité, je le prends. Ce qui est marqué dans le traité, je ne prends pas. Bon. Il y en a, il est élève de Shammai, l'autre, il se croit élève de Hillel. Chacun peut faire ce qu'il veut.
on est libre, kolarot se yavo vitol. Mais ça, c'est une liberté qu'on ne peut pas nous enlever. C'est la raison pour laquelle que chaque fois qu'on veut l'enlever, je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle toujours de pouvoir, on ne parle plus de Torah. On commence à parler de pouvoir. Dès qu'on parle de pouvoir, c'est fichu, parce que le pouvoir n'existe plus. Le roi, il avait un pouvoir. Il avait le droit de vie ou de mort sur ces sujets. Ça n'existe plus. Si ça n'existe plus, ça veut dire qu'on n'y est pas adapté. Donc ce n'est pas la peine de parler de pouvoir, on ne peut parler que d'enseignement. Et d'enseignement, c'est le pouvoir de l'élève sur le maître. Ça, c'est notre force. C'est ça qui fait qu'on est en vérité, on est égaux devant l'enseignement. Parce qu'on ne peut pas nous imposer quoi que ce soit. C'est ça la seule égalité possible. C'est que chaque élève peut prendre ce qu'il veut. En ça, nous, nous sommes égaux. Mais dans l'assimilation qu'on a de la Torah, dans le pouvoir qu'on a d'assimiler, dans le pouvoir qu'on a d'apprendre, de comprendre, on est totalement libre et on a le droit de comprendre les choses comme on veut. Et ça, c'est le pouvoir. Ça veut dire qu'on peut venir me dire, il faut tous s'associer, on s'associe. Le Talmid Chacham, celui qui possède lui et la Torah et les Masim Tovim, Dayo, ça ce qu'il dit ici, Dayo, ça suffit, Shiit Karev, suffit qu'il s'approche. Mais d'essayer de le lier, ce n'est pas possible.
Permettez-nous de formuler deux demandes. Dans le cas où ces cours amenaient des questions brûlantes, pour lesquelles vous souhaiteriez recevoir des réponses, adressez-les-nous par écrit à Dvar Torah et nous vous les retournerons dès que possible. Nous nous devons, à tout prix, préserver le temps d'étude et d'enseignement du Rav Heyman. C'est faute d'autres possibilités que, par avance, nous vous remercions vivement pour votre compréhension. Nous pensons que ces cours sont essentiels pour certains, peut-être même pour beaucoup, et nous voudrions avoir les moyens de les produire et les diffuser le plus largement possible. Vous pourriez peut-être...